Bienvenue à Dans la mer climatique sur les ondes de CHIZ 94.3. Je suis Naomi, votre animatrice pour les 30 prochaines minutes et je suis en compagnie de mes co-animatrices, Jeanne et Annabelle. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer dans cet épisode sur le lien entre les changements climatiques et les enjeux de santé. Donc, comme nous en avons parlé brièvement dans notre quatrième épisode sur la justice climatique et les disparités régionales, plusieurs conséquences des changements climatiques comme les vagues de chaleur extrêmes ou la dégradation de la qualité de l'air, ont des effets sur la santé des populations. Par exemple, des problèmes respiratoires, des problèmes de santé chronique, mais aussi des problèmes de santé mentale. Ainsi, on sait déjà en fait que les changements climatiques ont des impacts sur la santé. Dans cet épisode, on tente plus précisément de savoir si certaines populations sont plus vulnérables que d'autres aux conséquences des changements climatiques sur leur santé. Je veux pas faire de divulgateur, mais on sait que oui. Et bref, nous tenterons de répondre à la question suivante. Parmi la population canadienne, qui est le plus à risque de subir les effets de la crise climatique sur sa santé? Avant de plonger vraiment dans le vif du sujet, je crois qu'il est important de définir un concept central dont on va parler tout au long de l'épisode. Il s'agit de la vulnérabilité climatique. Donc, selon le GIEC, la vulnérabilité climatique est, et je cite, « la mesure dans laquelle un système, un groupe ou un individu est sensible ou incapable de faire face aux effets défavorables des changements climatiques, y compris la variabilité du climat et les phénomènes climatiques extrêmes ». Fin de la citation. En d'autres mots, la vulnérabilité est composée de la sensibilité et de la capacité d'adaptation.
Donc, en effet, selon l'OMS, les changements climatiques là, représenteraient l'une des plus grandes menaces pour la santé mondiale au 21e siècle. Pour ce qui est de la situation canadienne, là, plus précisément, donc on le sait que les changements climatiques sont déjà visibles au Canada, puis qu'ils se réchauffent le pays là, se réchauffe en moyenne deux fois plus vite que le reste du globe, selon là, des statistiques de 2021. Donc, cet accroissement de la température moyenne au Canada, bien évidemment, là, ça entraîne une récurrence et une intensité accrue des événements climatiques extrêmes qui augmentent les menaces directes et indirectes qui pèsent sur la santé et la sécurité des populations. On en a parlé un petit peu au dernier épisode, là, lorsqu'on parlait des impacts de genre, mais ça se répercute aussi là, au niveau plus de la santé des individus, puis la sécurité également des populations. Donc, on peut penser à des épisodes de chaleur extrême, des feux de forêt, des événements de précipitation extrême qui entraînent souvent des inondations. Donc, ce sont tous des événements qui peuvent là, avoir des effets délétères sur la santé des populations canadiennes. Donc, à titre d'exemple, pour les impacts directs, donc, on peut penser aux maladies non transmissibles, comme les maladies respiratoires et cardiovasculaires, ainsi que les impacts sur la santé mentale. Puisque les blessures et les décès associés aux événements météorologiques extrêmes là, entraînent habituellement là, des conséquences psychologiques qui peuvent marquer là, à vie certaines personnes, ou de manière temporaire, là, bien évidemment. Puis au niveau des impacts indirects, bien évidemment, là, des changements associés aux écosystèmes peuvent favoriser la propagation là, de maladies infectieuses. On pense notamment là, à tout ce qui est transmis par notamment des insectes volatiles, notamment le maringouin. Là, c'est sûr que le moustique classique ici là, n'est pas particulièrement là, un vecteur de transmission. Mais par exemple, on a des espèces, des variétés là, qui habituellement là, sont plus présentes dans le sud, donc près de l'équateur, qui grâce au réchauffement là, montent. On voit notamment là, une augmentation de la maladie de Lyme, notamment aux États-Unis. Mm-hmm. On voit là, une grande montée.
Mais on le voit aussi au Québec.
On le voit au Québec, notamment la région des cantons de l'Est, donc le sud du Québec, là, près de la frontière, est particulièrement là, affectée par le phénomène. Puis finalement, ça peut aussi être des contaminants là, qui sont rejetés dans l'air, qui peuvent... notamment affecter les rendements agricoles, donc contaminer par exemple là, des que ce soit là, des espèces animales, donc tout ce qui est bovin, ou sinon là, des cultures, qui elles là, peuvent ensuite entraîner une insécurité alimentaire. Donc finalement, là, c'est une chaîne là, qui peut être affectée là, grandement au niveau de la santé des populations. Pour le cas canadien, donc, plusieurs études s'étaient penchées là, sur le cas, puis s'entendent pour dire qu'il existe quatre types de déterminants de la santé. Donc, des déterminants de la santé qui sont des facteurs de vulnérabilité, là, une vulnérabilité qui pourrait être évidemment accrue par les changements climatiques. Donc, le premier, c'est les facteurs personnels, le deuxième, sociaux, troisième, économiques, quatrième, environnementaux. Évidemment, vous aurez compris que le quatrième là, est celui là, avec lequel il y a plus de corrélation avec les changements climatiques, mais ça peut là, ensuite percoler là, vers les trois autres. Donc, certains individus et groupes sont plus à risque de subir les préjudices associés au changement climatique que d'autres. Donc, on dit que ces personnes sont plus vulnérables. Ça peut être en lien notamment avec leur situation économique ou sociale. Voilà. Donc, ça égale des conséquences sanitaires là, des changements climatiques qui sont ni répartis ni vécus de manière uniforme dans la population. Donc, habituellement, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a comme des, si on veut, entre guillemets, des prédispositions. Mm-hmm. Donc, que ce soit par votre situation financière, votre situation sociale, donc si vous êtes en situation d'isolement ou tout ça, votre logement. Donc, ça fait que vous êtes plus prédisposé à vivre, dans le fond, les conséquences là, en lien avec la famille de facteurs environnementaux de la santé. Donc, qui sont, eux, là, à proximité avec les changements climatiques. Mm-hmm. Donc, on voit également que la vulnérabilité au changement climatique en lien avec la santé, mais ça fait sortir encore plus d'inégalités sociales qui correspondent à des différences qui sont déjà en place dans la société. Donc, que ce soit en termes individuels ou plus de communauté. Donc, par exemple, l'âge, le genre, le lieu de résidence, les classes sociales, les catégories socio-professionnelles, les catégories de revenus, le niveau d'études. Donc, c'est tous des facteurs qui, à la base, là, entraînent des conséquences variées dans la population par rapport à tout genre de situation. Dans le cas des changements climatiques, c'est des facteurs là, qui vont devenir encore plus proéminents, qui vont encore plus diviser la santé quant aux impacts là, des changements climatiques sur leur santé. Donc, ce sont des circonstances qu'on dit là, non choisies, souvent non méritées aussi. Donc, comme dirait John Rawls, le philosophe, pour ceux qui le connaissent, donc ce sont des circonstances qui sont moralement arbitraires. Donc, ça devient un problème public parce que c'est des inégalités qui sont associées à des positions sociales, à des conditions de vie qui souvent là, sont le résultat de choix de société, mais également de décisions politiques et qui impliquent également là, de nécessaires adaptations au niveau justement de la sphère politique. Donc, l'équité en santé, évidemment, l'accès au système va être à risque et va être... comment dire, sujet là, à de nouvelles réflexions suite aux impacts des changements climatiques là, sur les conditions de vie des habitants du Canada. Ce qu'on verra là, plus tard, dans l'épisode. Voilà.
Donc, maintenant, on voit qu'il y a des inégalités en santé créées par les changements climatiques selon le lieu de résidence. Par exemple, on va voir que les populations urbaines sont les plus vulnérables aux vagues de chaleur, car les températures sont plus élevées en raison des îlots de chaleur. Les populations urbaines sont aussi plus grandes victimes de la pollution atmosphérique, accentuée par la chaleur et la combustion d'énergie fossile, issue principalement du transport routier, qui est plus volumineux et concentré dans les régions urbaines. Par exemple, au Québec, les milieux urbains connaîtront des phénomènes de chaleur plus fréquents et plus intenses, ainsi qu'une augmentation des incidences de la mauvaise qualité de l'air. Ainsi, la population urbaine est plus à risque d'être exposée aux troubles liés à la déshydratation, aux coups de chaleur et aux épuisements dus à la chaleur. La pollution et les vagues de chaleur urbaine risquent également d'exacerber des maladies chroniques préexistantes, comme des maladies cardiovasculaires, au point de causer la mort. Mais effectivement, en 2015, des chercheurs ont évalué à plus de 20 000 le nombre de décès supplémentaires causés par l'augmentation de la chaleur d'ici 50 ans au Québec. Ainsi, nous savons déjà que si rien n'est fait pour lutter contre les inégalités sociales, ces potentiels décès toucheront des populations profils spécifiques au sein des milieux urbains. Donc, les personnes justement en situation de précarité là, sociale et financière. Nous y reviendrons lorsqu'il sera question des déterminants sociaux les déterminants sociaux de la santé.
En effet, donc on le voit là, aussi, là, si je peux me permettre, là, on a une augmentation des maladies respiratoires, notamment on voit que le taux d'asthme chez la population là, québécoise est en hausse là, de manière assez importante, puis il y a une corrélation notamment avec l'émission là, de polluants. Donc, voilà. Puis c'est évidemment, là, des choix qu'il va falloir réfléchir là, en lien avec notre système de santé. Donc, ce sont de nouvelles problématiques qui émergent puis qui vont devoir là, être abordées lors de séances là, des instances politiques québécoises et canadiennes. Donc, toujours dans les facteurs environnementaux, donc on le voit évidemment que les changements climatiques ont des impacts négatifs sur la santé et sur le bien-être partout Notamment dans les collectivités éloignées. Donc, c'est une situation là, qui est particulière. Donc, au Canada, ben, premièrement, on le sait, on a beaucoup de communautés éloignées, notamment dans le Nord, mais on a aussi une grande proportion de territoires ruraux. Donc, on a quand même là, une bonne partie de la population qui vit là, pas dans les grands centres urbains. Bon, c'est sûr qu'on a une tendance à l'urbanisation là, qui est de plus en plus fréquente, mais ça reste que, habituellement, ces établissements-là là, vont être permanents dans le temps. Et dans ces circonstances-là, on remarque que l'accès géographique aux établissements, aux services de santé, diffère évidemment d'une région à l'autre, puis est plus difficile dans ces régions-là. Par exemple, là, en lien avec l'éloignement, donc dans les régions rurales, c'est beaucoup de longues distances pour se rendre aux établissements de soins de santé, des longs temps d'attente, souvent des accès plus limités à des spécialistes. Donc, parfois, il faut être relocalisé, là, par exemple, dans des centres urbains pour avoir accès à certains soins. Puis, évidemment, bien, les urgences, là, parfois, là, sont beaucoup plus loin. Donc, en cas là, de situation vraiment très préoccupante où il faut être transféré d'urgence dans un soin de santé, dans un centre de soins de santé, habituellement, parfois, il faut avoir recours notamment à des systèmes de transport autres. Là, on pense notamment là, au transport par hélicoptère en cas d'urgence, qui, évidemment, là, coûte beaucoup plus cher là, pour les citoyens en région éloignée. Si on prend le Québec pour illustrer là, ce déterminant de santé, on sait que dans notre province, l'accès au système de santé, bon, en général, c'est un peu plus difficile ces temps-ci, on le sait, mais évidemment, ça s'accroît pour les personnes qui vivent en région. Donc, ce sera accentué, ce manque d'accès-là, avec les changements climatiques, non seulement parce que bien, il y aura une hausse, dans le fond, de cas de maladies chroniques qui vont avoir besoin de systèmes de santé, mais aussi, on peut le penser, là, que ça entraîne aussi beaucoup de perturbations environnementales. On peut penser notamment aux communautés nordiques où c'est beaucoup plus difficile d'avoir des infrastructures. Donc, ça pourrait même là, remettre en question la présence de centres de soins de santé à certains emplacements. Donc, voilà. Ça aggrave là, considérablement, dans le fond, la situation qui est déjà assez préoccupante, je pense, là, au Québec, au niveau là, du système de santé.
On va passer maintenant aux inégalités en santé selon l'appartenance communautaire. Puis ça, ce déterminant-là va combiner des facteurs sociaux, économiques et environnementaux. Pour illustrer les inégalités en termes d'appartenance communautaire, on va utiliser l'exemple, en fait, des impacts des changements climatiques sur les populations autochtones. On sait que souvent, c'est des populations qui ont déjà un accès qui est plus limité au système de santé. Mais en plus, ce sont des collectivités qui ont un lien assez étroit avec l'environnement. En fait, les collectivités autochtones dépendent étroitement de la terre pour leur subsistance, mais aussi pour leurs pratiques culturelles. Donc, les changements climatiques entraînent des difficultés d'accès à une alimentation et à de l'eau, en fait, à l'apparition de nouvelles maladies, à l'aggravation de maladies existantes, à davantage de blessures, de décès causés par des événements météorologiques extrêmes, mais aussi à des conditions changeantes en termes de météo, ainsi qu'à des défis croissants pour la santé mentale liés aux incertitudes environnementales. Ça entraîne aussi un problème de sécurité alimentaire qui est un enjeu qui est de plus en plus prévalent pour de nombreuses collectivités autochtones éloignées. On peut penser notamment à certains peuples des Premières Nations ou des Inuits qui vivent dans le nord du pays, qui est une région qui est beaucoup plus affectée, on le sait, par les changements climatiques. Donc, en fait, les perturbations entraînent une fonte de la glace de mer, ce qui perturbe aussi la faune, la flore, donc la végétation, puis qui ont un impact sur la capacité des individus des collectivités autochtones à chasser, à pêcher, puis à rechercher de la nourriture. Ça, bien, ça entraîne une diminution de la consommation d'aliments locaux sains, mais aussi une augmentation de leur dépendance envers des aliments qui sont vendus en détail. Puis, cette situation-là, ça va diminuer la disponibilité et la consommation d'aliments sains et privilégiés dans leurs cultures respectives. Ça entraîne aussi une augmentation des polluants organiques persistants, donc des métaux lourds, dans les sources d'eau locales, puis dans leur nourriture, en fait. Puis, en plus de tout ça, bien, ça entraîne des réactions mentales, émotionnelles, associées aux changements dans leurs moyens de subsistance, leurs pratiques culturelles, puis leurs liens avec la Terre. En fait, c'est des changements climatiques qui leur sont imposés à cause des changements climatiques, puis ça les force, en fait, à se détacher d'éléments culturels et traditionnels qui forgent, en fait, leur identité collective.
Donc, en effet, c'est un excellent exemple là, des impacts indirects des changements climatiques, parler plutôt là, sur la santé. Donc, en changeant là, la production alimentaire dans des territoires éloignés, bien, les changements climatiques vont entraîner des changements dans les régimes alimentaires des populations autochtones qui, eux, peuvent mener à de l'insécurité alimentaire, surtout qu'on sait déjà que l'alimentation, c'est une question là, dans les communautés éloignées qui est déjà assez là, soumise à de l'insécurité, notamment en termes d'approvisionnement. Puis ça peut également le mener à des enjeux de santé mentale liés à la menace de certaines des traditions, mais aussi des menaces liées au milieu de vie. Bref, là, ça retourne autour beaucoup là, de la question de l'éco-anxiété.
Puis ça peut être intéressant ici de faire un petit clin d'œil au principe de responsabilité. En fait, on sait que les peuples autochtones du Canada, mais aussi ceux dans le monde, contribuent très peu aux émissions de gaz à effet de serre comparativement aux autres populations, mais ils sont touchés de manière disproportionnée par les changements climatiques, notamment en ce qui concerne leur santé. Et cela peut s'expliquer par des inégalités, des iniquités sociales, économiques et environnementales, auxquelles on peut ajouter les enjeux liés à l'oppression coloniale historique et continue. Et d'ailleurs, on va en reparler justement dans un prochain épisode sur les inégalités causées par les changements climatiques sur les communautés autochtones. Ça pourrait être vraiment un sujet intéressant.
Oui, puis on va passer à un troisième cas, en fait, d'inégalité en santé, puis c'est celles qui sont liées à la classe socio-économique. Donc ça va combiner les facteurs ou les déterminants de santé sociaux et économiques. Donc en fait, le revenu, le statut social, l'éducation et l'alphabétisation sont tous des facteurs qui jouent sur la capacité des individus et des collectivités en général à s'adapter au changement climatique. Puis la marginalisation sociale de certains groupes, on peut penser aux personnes en situation d'itinérance, par exemple, ou aux groupes issus de minorités visibles, bien, cette marginalisation-là va limiter l'accès aux ressources économiques, sociales et culturelles. Donc, les personnes qui sont victimes d'exclusion sociale sont plus susceptibles d'être sans emploi, à faible revenu, mais aussi d'avoir de la difficulté à accéder aux soins de santé. Donc là, si on revient à notre exemple des épisodes de chaleur dans les centres urbains, bien, les personnes qui sont socialement et économiquement défavorisées subissent davantage les impacts sanitaires liés aux vagues de chaleur et y font plus difficilement face. En fait, en plus, quand on s'attarde à la distribution spatiale de la végétation dans la métropole québécoise, donc Montréal, on remarque que les quartiers les plus défavorisés ont aussi un accès plus limité à la végétation. Donc, les lieux où vivent les personnes les plus défavorisées sont des zones qui cumulent des facteurs aggravant les vagues de chaleur, car ce sont elles, généralement, qui ont une plus forte densité de trafic, qui sont plus asphaltées, qui possèdent peu d'espace vert, puis qui enregistrent de plus en plus de concentration de polluants, puis donc, ce sont des quartiers qui sont donc plus chauds. Ainsi, l'urbanisme de nos villes et la répartition spatiale de la végétation entraînent de l'équité environnementale, une inéquité en fait qui s'ajoute aux inégalités de revenus. Donc, les personnes qui sont déjà défavorisées en termes de revenus, d'éducation, d'exclusion sociale se retrouvent dans des situations de surexposition à des nuisances climatiques comme la pollution de l'air ou la faible accessibilité aux éléments qui atténuent les effets des vagues de chaleur. Donc, les inégalités sociales et leurs intersectionnalités sont des agents multiplicateurs des effets des changements climatiques sur la santé.
D'ailleurs, en fait, un concept très important que tu viens de nommer, l'intersectionnalité, on va faire un petit rappel sur ce concept-là. C'est un concept, en fait, qui est utilisé pour mieux comprendre les interactions complexes et interdépendantes entre divers facteurs identitaires relatifs aux individus. Donc, le sexe, le genre, l'âge, la langue, la capacité, aux normes sociales, aux pratiques culturelles, aux processus institutionnels, puis aux systèmes de pouvoir et d'oppression. Donc, il est important, en fait, avec ce concept-là, de prendre en compte un éventail d'axes de différence, d'oppression, pour mieux comprendre les inégalités comme étant à l'intersection de plusieurs facteurs de discrimination.
Donc maintenant, on a parlé des conséquences là, des changements climatiques sur la santé, mais il faut savoir qu'il y a des solutions qui peuvent être apportées là, à cette problématique. Donc, premièrement, bien évidemment, il va falloir réduire nos émissions de gaz à effet de serre, particulièrement dans le secteur des transports. Ce qui permettrait non seulement de lutter contre les changements climatiques, mais aussi de réduire là, la pollution de l'air. On le sait, la combustion, les moteurs à combustion là, produisent beaucoup de polluants qui contribuent à l'apparition de maladies chroniques, notamment des problèmes respiratoires et des décès prématurés. Donc, on voit la nécessité de mesures d'atténuation. Toutefois, on le sait, les changements climatiques vont être inévitables. Malheureusement, on est trop avancé là, dans le processus pour que on puisse éviter la situation. Donc, des mesures d'atténuation vont être nécessaires, mais ne sont pas absolues. Il va falloir aussi des mesures d'adaptation. Pour ça, il faut se donner là, les moyens d'en mettre en place. Ils doivent prendre en compte, évidemment, là, le lien entre inégalité sociale, vulnérabilité aux problèmes de santé, puis la question des changements climatiques. Donc, il ne faut pas mettre des mesures d'adaptation qui pourraient accroître le fossé des inégalités. Il faut plutôt avoir des mesures intégrantes qui sont centrées sur le principe d'équité environnementale puis qui vont combiner une lutte à ces trois types là, d'inégalités. Donc, bref, il faut avoir là, des mesures qui sont autant responsables socialement qu'au niveau environnemental. Ça inclut, premièrement, la planification de la distribution du verdissement et des infrastructures de transport. Il faut aussi aménager des espaces verts dans les secteurs les plus pauvres des centres urbains, qui habituellement là, sont des îlots de chaleur. Donc, évidemment, là, le verdissement des espaces naturels, ça peut permettre de diminuer là, la température dans ces quartiers-là. Il faut créer des jardins communautaires qui sont également des lieux de verdissement, mais également qui peuvent aider la santé mentale, puis qui peuvent accroître les liens au sein d'une même communauté. Donc, il y a vraiment là, beaucoup de projets communautaires, mais en termes d'aménagement, qui peuvent être instaurés dans nos villes de manière quand même assez facile. Donc, c'est des projets qui existent. Là. C'est pas des choses qu'on a à inventer. C'est juste qu'on a juste à appliquer. Mm-hmm. Puis ça, c'est possible de le faire. Il faut juste donner les moyens là, au niveau politique.
Par contre, je pense qu'il faut faire un petit point là, par rapport à ça. Il faut faire attention en priorisant en fait, les quartiers à faible revenu à travers de telles solutions pour ne pas mener à une gentrification verte. On en avait déjà parlé en fait, là, dans un épisode précédent, mais ça mérite une clarification. Donc, la gentrification verte, en fait, c'est un effet, et là je cite, un effet d'embourgeoisement provoqué par des transformations qui peut faire augmenter le prix des loyers, chassant par le fait même les populations à qui était destiné à la base, le verdissement.
Donc, en effet, là, il faut vraiment là, que quand on pense aux mesures qu'on veut instaurer dans les quartiers, habituellement là, qui sont plus à risque, il faut combiner préoccupations sociales et préoccupations environnementales. Puis même, je pense qu'il faut aussi s'attaquer à des préoccupations sociales qui, dans un premier temps, on ne verrait pas comme des enjeux liés à la lutte au changement climatique. Par exemple, la crise du logement. Donc, si le logement était plus accessible, ben il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans des positions de vulnérabilité, qui sont dans des logements, par exemple, mal isolés, des logements dont la température hausse énormément lors des canicules, qui pourraient se retrouver moins à risque si on réglait ce problème d'accessibilité au logement. Puis quand je parle d'accessibilité au logement, c'est pas seulement le fait d'avoir un logement, c'est d'avoir un logement qui est convenable. Voilà. Aussi, peut-être plus pour les communautés éloignées ou du moins les communautés avec des particularités culturelles, les mesures d'adaptation, mais aussi d'atténuation, doivent utiliser les multiples systèmes de connaissances qui sont propres à ces communautés-là, qui ont un contexte là, socio-culturel particulier, notamment en prenant en compte là, les pratiques, les savoirs traditionnels. Il y a les modes de vie locaux. Donc, dans le fond, là, il faut avoir un savoir qui est intégré. Puis, il faut aussi là, vraiment là, y aller là, l'approche que j'aime bien dire « bottom-up ». Donc, partir là, des communautés. Donc, établir leurs besoins, puis bâtir des solutions qui conviennent à ce qu'elles désirent. Parce que parfois, là, on impose des solutions à certaines communautés. Puis, au final, ça ne convient pas à ce qui était nécessaire. Puis, on n'arrive même pas à réduire le problème là, qu'on essayait de régler. Donc, vraiment, là, cette nécessité là, de sortir du modèle un peu top-down, donc des politiques qui imposent là, des changements à des communautés, mais vraiment de prendre en compte là, cette expertise locale là, qui existe. Puis, non seulement dans les communautés là, culturelles, notamment comme les Premières Nations, mais parfois juste les habitants d'un quartier, on a une expertise liée au fait d'habiter le dit quartier. Donc, finalement, là, pour finir tout ça, il faut accroître la capacité d'adaptation des populations. C'est une question de résilience puis d'équité, puis c'est une nécessité dans la lutte au changement climatique, mais également, là, de manière plus globale, dans tous les changements qu'on envisage, notamment dans notre système de santé, dans nos systèmes d'éducation. Lorsqu'on fait des changements de société, il faut penser là, à la résilience puis l'équité de nos sociétés. Donc, pour ce qui est de la lutte au changement climatique, ça implique une réduction de nos GES, mais également la mise en place de solutions pour répondre aux corollaires sanitaires et sociaux de la crise climatique. Mm-hmm. Donc, bref, en ce moment, on se trouve à un point charnière qui demande là, des solutions intégrées aux problèmes de société là, auxquels on fait face.
Super, ben merci pour toutes ces informations sur les changements climatiques et les impacts sur la santé. On en est maintenant aux actualités climatiques. Donc d'abord, on a des nouvelles données qui sont sorties et on sait maintenant qu'un record historique mondial aurait été atteint pour les subventions aux énergies fossiles en 2020.
Oui, donc en fait, selon des données qui ont été partagées par l'Agence internationale de l'énergie tout récemment, là, on n'aurait jamais autant subventionné la consommation d'énergie fossile qu'en 2022, et ce, à l'échelle globale. En effet, les subventions auraient doublé par rapport à 2021, atteignant un record historique. En fait, le total mondial des subventions aurait atteint le 100 milliards de dollars. Donc, la plupart de ces subventions ont surtout été dépensées dans les pays avec une économie dite en développement, mais on a aussi vu cette augmentation là, de prêts de subventions de ce type d'aide, en fait, même dans les pays qui sont dits développés, où par exemple en Europe, les aides financières ont été de 350 milliards de dollars, notamment dans le but d'aider à la réduction des factures d'énergie.
Juste pour s'assurer qu'on comprenne bien, petite erreur, donc le total mondial des subventions, c'est 1000 milliards de dollars. Ah. Juste pour s'assurer là, que vous compreniez avec le 350 milliards de dollars en Europe. Là. Voilà.
Oui, oui, merci pour la correction. donc, en fait, on peut comprendre cette situation-là de record historique de subventions là, aux énergies fossiles en raison notamment du contexte inflationniste mondial et de la montée des prix de l'énergie, principalement à cause de la guerre en Ukraine. On peut donc penser que l'aide financière au domaine des énergies fossiles a été faite, en fait, pour assurer la sécurité énergétique, puis pour aider les consommateurs, les entreprises, en cette période assez économique assez instable. Ce sont donc des solutions d'urgence, mais quand même, le fait que les subventions soient aussi importantes représente un risque qui est non négligeable pour la transition énergétique.
Puis justement, on en avait déjà parlé dans un de nos épisodes précédents de la situation là, avec la guerre en Ukraine qui allait poser un défi là, pour la transition énergétique, car ben, en fait, ça, comme on le voit en ce moment, ça peut inciter les gouvernements à réinvestir dans les énergies fossiles par mesure de sécurité. Et donc, on le voit que ça a été le cas cette année. Puis justement, là, il faut être capable de renverser la vapeur pour utiliser ce contexte-là comme un... comme une motivation de plus pour accélérer la transition énergétique. Et donc, aussi, on va continuer à suivre la situation 2023 pour essayer d'analyser les impacts de la guerre en Ukraine sur la transition énergétique. Je pense que ça peut être vraiment un sujet intéressant.
Oui, effectivement, mais c'est ça, c'était dans nos défis climatiques mm-hmm. de l'année, là, donc ça démontre, oui, son importance. Notamment, l'Agence internationale de l'énergie, elle a recommandé au gouvernement d'éviter ce genre d'aide d'urgence qui pèse lourd sur les finances publiques, qui détourne aussi l'attention de la population, puis qui freine carrément la transition énergétique. Donc, plutôt que d'investir dans les énergies fossiles, faudrait profiter de cette situation-là pour investir dans les énergies renouvelables, puis mettre en place des changements structurels. Mm-hmm. Donc, un autre dossier qui, selon nous, mérite notre attention, en fait, c'est la nouvelle sortie en début février qui concerne nos chances d'atteindre nos cibles climatiques. Donc, en fait, une étude américaine qui a été faite par une intelligence artificielle, en fait, nous a révélé au début du mois que la barre du plus 1,5 degré devrait être atteinte entre 2033 et 2035. Ça, c'est dans 10 ans.
Ça aide pas pour l'éco-anxiété, ça.
Non, non. Puis ça, on ajoute à cela, en fait, que la possibilité qu'on dépasse le 2 degré d'ici 2065, là, selon la même étude, cette possibilité-là est substantielle, et ce, même si on parvenait à la carboneutralité. Donc, Naomi le dit, ça aide pas à l'éco-anxiété. C'est un peu décourageant, mais on pense que c'est primordial d'en parler. Par contre, c'est aussi important, en fait, d'éviter le cynisme. Parce qu'atténuer les changements climatiques, c'est pas une question de barrières technologiques, financières ou d'infrastructures. En fait, c'est un enjeu qui dépend de la volonté politique puis de nos ambitions en tant que communauté à poser des actions en faveur, en fait, de la lutte climatique. Donc, c'est possible de changer de cap, en fait, puis de ne pas être cynique par rapport à cette situation-là.
Je pense qu'en plus, là, il ne faut pas se décourager parce que des changements drastiques sont encore possibles. Donc, oui, c'est des prédictions, Mais si on voulait vraiment se donner les moyens et ne pas là, suivre ce scénario catastrophique, on pourrait le faire. Mm. Donc, c'est pas là, les gens à la maison, ne pensez pas que la lutte est perdue. Au contraire, c'est juste que c'est une sorte d'avertissement, là, un signal d'alarme comme quoi c'est le temps de se relever les manches.
Oui, c'est ça. Donc, les actions doivent arriver rapidement.
Oui, c'est ça. Donc, c'est comme une alarme qui nous dit « Hey, faut changer le cap. »
Maintenant.
Bon. Des fois, on en a besoin, là, justement, des avertissements comme cela pour nous motiver à changer nos habitudes. Merci beaucoup, Annabelle, pour les actualités. Donc, c'est déjà la fin de notre émission qui portait sur les enjeux de santé et les changements climatiques. Je vous rappelle encore une fois que si vous avez des questions, commentaires, suggestions, vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook à Dans la mire climatique et aussi par courriel à l'adresse danslamireclimatique@commercialoutlook.com. Pour finir, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de Dans la mire climatique sur les ondes de CHIZ 94.3. À bientôt!